beaucoup, trop présupposés. Et après Descartes qui dit, vous pensiez vous rattacher à la structure du raisonnement, à sa forme, même celle-ci, peut-être discuter, je voudrais vous parler même un peu rapidement de Hegel, en tant que celui-ci a énormément réfléchi sur l'histoire et le sens des preuves de l'existence de Dieu, en assumant finalement ce que toute cette histoire a fait, notamment chez Hegel, c'est-à-dire en les réfutant, c'est ce qu'on va voir maintenant, et en même temps en disant que si on les a réfutés, c'est parce qu'on les a mal compris, etc. On va donc le retrouver tout à l'heure. Il m'intéresse ici parce que lui aussi, c'est une critique de la forme des preuves de l'existence de Dieu, c'est-à-dire de la structure du raisonnement, c'est-à-dire du syllogisme, en disant presque la même chose que Descartes au début, c'est-à-dire en fait on sait déjà tout ce qui va venir par la suite, mais il insiste sur le fait que c'est l'esprit humain qui tire les conclusions, alors que pour que la preuve soit vraiment satisfaisante, il faudrait que les concepts, presque sans qu'on les regarde, génèrent d'eux-mêmes leurs propres conclusions. On va regarder ça, c'est le texte 6, je le prends à peu près, 10 minutes après le début, à partir de « Il suffit ici ». Il suffit ici, par rapport à ce qui a été dit, de remarquer comme précision supplémentaire que les règles de la déduction possède une forme de fondation qui est du genre de calcul mathématique. Les combinaisons des déterminations qui doivent constituer un syllogisme reposent sur le rapport de l'extension qui est la leur, l'une par rapport à l'autre, et qui est à juste titre considérée comme plus grande ou plus petite. La détermination de cette extension est ce qui est décisif pour la justesse de la subdimension. D'anciens logiciens, comme Lambert, Fouquet, se sont donné le mal de trouver une désignation permettant de ramener le lien de déduction à l'identité mathématique abstraite, qui est l'égalité, de telle sorte que la déduction se présente comme le mécanisme de l'opération arithmétique. Mais en ce qui concerne en outre la connaissance d'après un tel enchaînement lui-même extérieur d'objets, qui, selon leur nature propre, sont en soi extérieurs, nous aurons à en parler tout de suite sous le nom de la connaissance médianisée et examinerons l'opposition de plus près. Alors, ceci est un texte introductif à une critique qui va courir sur plusieurs pages. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le rapport entre ce raisonnement et les mathématiques. C'est un rapport d'ailleurs que même Descartes ne fait pas. C'est du raisonnement, c'est de la rationalité, et éventuellement, dans un sens très large, c'est une démonstration. Mais pour être vraiment plus précis et pour assumer une dimension mathématique, comme dit Hegel, il y a un travail supplémentaire qui a été fait par des logiciens et qui consiste à ramener cette forme à des extensions, en disant soit A l'ensemble des termes tels que B est inclus dans A, donc par la logique d'inclusion, eh bien, on a la conclusion suivante. Cet effort il est intéressant, il ressemble pas mal à ce qu'on a vu avec Russell, mais le but de cet effort, c'est plutôt de montrer que un grand nombre de syllogismes fonctionne bien, ou que certains doivent être améliorés. Et on serait tenté donc de dire, bah, si on peut faire un raisonnement bien plus formalisé que celui que Descartes critiquait en parlant de la forme, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà bien plus abouti, on va peut-être finalement les sauver, ces preuves de l'existence de Dieu. Et Hegel dit, mais non, regardez, vous êtes en train de ramener une démonstration au sujet, un raisonnement au sujet de Dieu, à des mathématiques. Et les mathématiques, c'est très bien, c'est sérieux, etc. Bon. Le problème des mathématiques, dit Hegel, on a tous fait l'expérience en résolvant le problème, c'est que la solution est donnée dans la question. Car si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas trouver la solution. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de très rare. C'est-à-dire que le corriger est donné en même temps que le sujet, hein, pour les élèves. Les élèves ont l'expérience très souvent. Toutes les réponses sont énoncées. On vous demande simplement de les dégober, tirer, ouvrir, alors souvent en amenant d'autres réponses supposées connues, des théorèmes, etc. Mais concrètement, le verre est dans le fruit dès le départ, il suffit de laisser travailler, le travail va se faire. Autrement dit, Hegel était très fort dans sa discipline, les mathématiques c'est trop facile. Même les théorèmes qu'on croit compliqués, etc., on n'a pas trouvé. Il y a comme ça des théorèmes réputés impossibles qu'on a fini par en trouver. Théorème de Fermat, par exemple, voilà ce qui a fait empêcher de dormir pas mal de mathématiciens. Puis un jour, on a réussi à prouver faisons une démonstration. En ce moment, si vous voulez, ce serait le théorème de Gödel, par exemple. On dirait, bah, typiquement, on a là un théorème qu'on ne peut pas démontrer. Sauf que sa démonstration de non-démonstration possible sera peut-être éclairée un jour par une autre démonstration. Voilà la conception mathématique des mathématiques selon Hegel. Et il dit finalement, si on fait un raisonnement sur Dieu, qui dans le meilleur des cas est présenté d'un point de vue mathématique, avec des logiques d'ensemble, d'inclusion, etc., eh bien, on est obligé de reconnaître que la critique d'un Rousseau, qui est tardive, eh bien, est valable. C'est-à-dire que, au moment même où vous pensiez que votre forme vous protégeait de l'opinion, des a priori, quand vous pensiez vraiment apporter une démonstration, eh bien, ce n'est pas une démonstration. C'est l'explicitation d'une idée de départ. Vous aviez déjà posé Dieu pour le montrer. Ce qui fait que, dans les premières leçons sur les preuves de l'existence de Dieu de Hegel, eh bien, on a plusieurs leçons comme ça, qui sont vraiment l'exploitation de toutes les erreurs, alors, soit reconnues, soit nouvellement observées par Hegel, qui, chez quelqu'un qui va finalement les défendre, est obligé de reconnaître que, ainsi présenté, avec le secours de la forme qui est censée être la charpente qui les soutient et qui fait que ce sont de vraies preuves, eh bien, on n'a pas affaire à des preuves. On a juste affaire à des gens qui fouillent les idées qu'ils ont déjà. Ce qui est déjà intéressant en soi, hein, de savoir ce qu'on a en soi, de l'exprimer, de le détailler. Mais dans ce cas-là, il faudra prétendre que c'est une preuve. Il faut juste dire, on est né avec l'idée de Dieu, ou bien on m'a appris à croire en Dieu, ou bien c'est une idée bizarre que j'ai en moi, ou bien il n'existe pas, mais j'en parle et c'est bizarre et il y a une contradiction. Il ne s'agit pas de les présenter comme preuve. Alors vous voyez, c'est une sorte de coup d'épée, cette fois fatal, à l'ensemble des trois preuves qu'on a présentées tout à l'heure, parce que on peut se mettre dans des hypothèses où, mais peut-être qu'on peut analyser l'article défini autrement que Rousseau, mais peut-être que la causalité, elle serait finalement vraiment dans les choses. Ce qui est certain, c'est que ce qui fait qu'une preuve de l'existence de Dieu est une preuve, c'est qu'elle s'organise autour d'un raisonnement, d'une articulation, d'une forme logique. Que si vous en venez à dire que cette forme logique est elle-même extrêmement discutable, argument cartésien ou argument hegelien, et avec Hegel encore pire, en disant que même ultimement dans la meilleure des formalisations mathématiques, ce ne sera jamais que des maths, eh bien, il ne reste plus rien de cet édifice. Et donc, les conclusions qu'on avait développées tout à l'heure au terme de l'exposition de trois preuves semblent finalement bien abîmées, à savoir Dieu est-il un objet, on maîtrise ça. Ou alors c'est un objet toujours immédiatement donné. Pourquoi pas, hein, ça reste une hypothèse. Néanmoins, il ne faut pas parler de preuve. Donc c'est pas un objet issu d'un système de preuves. Ce n'est pas un objet connu par un système de preuves. Deuxièmement, le pouvoir de la raison humaine dans cette affaire-là, bah, c'est la conséquence directe. Il n'est peut-être pas aussi grand que nous l'espérions. C'est-à-dire que le projet est extrêmement ambitieux de ramener Dieu à des propositions formelles semble limité, même totalement impossible. Et puis notre concurrence de la philosophie et de la religion, eh bien, elle retrouve ici son sens, à savoir que bah, c'est bien d'avoir essayé, pourrait dire le théologien, on est content pour vous, j'ai bien vous amuser ou bien transpirer. Mais si maintenant vous êtes fatigué de vos preuves, c'est parce que vous n'écoutiez pas d'emblée la voix divine en vous, et que par orgueil, par exemple, par défi, eh bien, vous espériez concurrencer la religion alors qu'elle est première. Et là, c'est justement de cette idée qu'on va repartir pour voir si on ne peut pas sauver au moins la philosophie, c'est-à-dire une expression de la rationalité, tout en reconnaissant un certain échec, autrement dit, voir ce qu'on peut sauver de cette aventure. Il ne s'agit pas de s'arrêter là en disant, bon, bah, pendant 2000 ans, on a discuté un truc, et finalement, ce n'est pas utile. Ça peut arriver hein, dans l'histoire de l'humanité. Il y a comme ça l'histoire de faux problèmes. Hein, pour les lecteurs de Bachelard, il y en a pas mal d'exemples dans ses ouvrages. Typiquement, pendant pas mal de temps, pendant un siècle, on s'est demandé si la rosée venait des plantes ou si elle venait de l'air. Et on s'est posé la question comme ça, est-ce la plante ou est-ce l'air? Ben, vous pouvez tirer le problème dans tous les sens, passer par toutes les expériences. Tant que vous n'envisagez pas la troisième alternative qui est de dire que ça vient de la relation des deux, vous ne trouverez pas de réponse. Voilà typiquement l'exemple du faux problème. Donc, on peut parler longtemps pour rien. Je crois que ce n'est pas le cas pour l'existence de Dieu, non pas parce que ce serait ce problème-là en particulier, la la nature du problème n'a pas d'implication ici, justement, parce que je vais vous montrer qu'il y a un certain nombre de conclusions dans IV qui nous ouvrent à un autre sens, même si nous n'arrivons pas à dire que Dieu existe au terme de cette seule histoire d'épreuve. Alors, je suis dans ma troisième partie, l'épreuve de l'existence de Dieu comme épreuve humaine. Je comprends dès lors qu'on peut avoir trois attitudes vis-à-vis de cette épreuve. Soit, c'était l'attitude que j'évoquais à l'instant, on refuse en disant que ce n'est pas la peine. Et évidemment, le risque, c'est qu'à force d'accuser l'orgueil humain de la réflexion ou de la connaissance, on tombe dans ce qu'on appelle l'obscurantisme. C'est-à-dire, on ne cherche plus à comprendre, on revient à la superstition, etc. Bon. Donc c'est une attitude qui n'est pas totalement satisfaisante. On peut même dire, en étant chrétien, c'est ce que fait Locke, philosophe naturaliste, dire, après tout, d'accord, notre raison est peut-être limitée, mais c'est quand même Dieu qui nous a donné notre raison, et en général, il sait pourquoi il fait les choses, donc s'il nous l'a donné, c'est pour s'en servir. Donc même en tant que chrétien, cette idée d'abandonner le discours rationnel parce qu'il aurait connu un échec majeur, est une option qui est difficile de retenir. Ou bien on peut essayer, ça va être le cas ici, d'avoir une attitude plus modérée, en reconnaissant les limites de la raison humaine, mais dans le même temps, en voyant ce que l'exercice de cette raison, même dans ses échecs partiels, peut apporter à l'homme en général ou à la foi en particulier. Et pour cela, on va voir si la subordination fonctionne, c'est-à-dire voir si on peut se résoudre à dire, bon bah, la philosophie, la raison, son usage naturel, doit être subordonnée aux vérités de la foi. Ça va être la première hypothèse qu'on va développer. Dire, mais non, finalement, c'est qu'on n'avait pas bien utilisé la raison, revenir à un rationalisme un peu plus dur, éventuellement en changeant le terme de raison, et dire, c'est la foi qui doit être subordonnée à cela. Et on va voir en fait que ces deux propositions sont chacune, à leur manière, insatisfaisantes. Alors, commençons par la première, qui, en fait, je suis dans le 3.1, l'humilité d'une philosophie théologique, l'entendement soumis à la foi, qui en fait va nous plonger au cœur du thomisme. Alors, vous connaissez peut-être un petit peu saint Thomas d'Aquin, le père de l'Église, qui, en fait, alors c'est ça qui est évident, à l'intérieur de l'Église, a connu le problème plus général des rapports de la philosophie et de la religion. Jusque-là, moi, je voulais poser de l'extérieur, c'est-à-dire la philosophie d'un côté et la religion de l'autre, mais même quand vous êtes dans la religion, vous pouvez considérer que certains sont encore trop dans la philosophie, même en étant croyants, en faisant des livres, en étant religieux, etc. Et donc, se font taper sur les doigts par ceux qui considèrent qu'ils sont beaucoup plus nettement dans la religion, et c'est toute la controverse entre les franciscains et les dominicains au XIIe, XIIIe siècle, entre des gens comme saint Thomas qui disait, bon, la vérité de la foi, on ne touche pas, c'est parfait, c'est merveilleux, etc. Mais la raison naturelle, et puis Aristote en particulier, va nous aider quand même à y voir un peu plus clair. Et puis de l'autre côté, ceux qui disaient, bon, Aristote, si ça vous amuse, mais il ne clarifiera jamais rien, car le texte est d'emblée, peut-être pas transparent quand même, mais en tout cas, tellement déjà riche, que vouloir enrichir une richesse totale, c'est être injurieux vis-à-vis de cette chose tellement riche. Alors on va voir justement la position de saint Thomas, parce qu'elle va nous éclairer. Saint Thomas parle non pas de la critique des preuves de l'existence de Dieu, mais plutôt des révélations de la théologie, selon lesquelles notamment l'homme est la créature de Dieu, et par conséquent ne saurait avoir le même pouvoir intellectuel, ou en général d'ailleurs, que Dieu, par définition. Donc de ce point de vue-là, même si il ne fait pas partie de la critique que j'évoquais, on pourrait dire qu'il y a dans, parmi les points de départ de cette philosophie, quelque chose qui pourrait nous rattacher à notre conclusion à nous. Il n'a jamais prétendu qu'on pouvait tout dire au sujet de Dieu, ou qu'on pouvait totalement le déduire. Et pourtant, au tout début de la somme théologique, dans la première partie, il propose lui-même un bilan, une sorte de bilan logico-historique des preuves de l'existence de Dieu, alors qu'il va appeler les voies vers Dieu. Il va proposer à son époque, en tout cas, le système le plus, la présentation pardon, la plus systématique de ces preuves. Vous avez une question, vous avez les cinq voies successives dans l'argument, avec les réfutations, les réponses aux réfutations, et l'idée que ces preuves sont valables. Et de manière plus générale, saint Thomas va estimer qu'on peut raisonner en matière religieuse tout en étant théologien, c'est-à-dire en assumant le mot logos de théologie, Et c'est ce qu'il dit dans l'extrait du texte 7, où il considère que la doctrine sacrée, en la théologie, est une science. Alors, je lis ce petit extrait. À coup sûr, la doctrine sacrée est une science. Mais parmi les sciences, il en est de deux espèces. Certaines s'appuient sur des principes connus par la lumière de l'intelligence, de la naturelle, telles l'arithmétique, la géométrie, etc. D'autres procèdent de principes qui sont connus à la lumière d'une science supérieure, comme la perspective à partir de principes reconnus en géométrie, et la musique à partir de principes connus par l'arithmétique. Et c'est de cette façon que la doctrine sacrée est une science, elle procède en effet de principes connus à la lumière d'une science de Dieu et des bienheureux. Et comme la musique fait confiance aux principes qui lui sont livrés par l'arithmétique, ainsi la doctrine sacrée accorde foi aux principes révélés par Dieu. Alors, le mot science n'a certes pas exactement le sens contemporain, hein, pas de laboratoire, il n'y a pas de consensus des scientifiques, etc. Mais certainement, c'est que on peut parvenir au même degré de certitude dans ce domaine que dans le domaine présenté comme plus naturel, sans pour autant renoncer à la rationalité. Alors, ce qui fera dire à saint Thomas que la philosophie est servante de la théologie. C'est-à-dire, le but de la philosophie n'est certes pas de se substituer à la théologie, mais d'en éclairer certains contenus, certains textes, quand c'est possible. Quand c'est possible. Alors, c'est une drôle de position qu'on a ensuite qualifiée de philosophie chrétienne, dans la mesure où, pour saint Thomas, ce qu'il fait, c'est un peu curieux de le présenter comme ça, mais c'est de la philosophie par défaut. C'est même pas un défaut d'un homme qui n'aurait pas eu besoin de faire autre chose, ou de quelqu'un qui ne la ferait pas bien, etc. C'est de la philosophie par défaut chez un auteur génial, dans son écriture, dans sa capacité de travail, dans sa capacité d'abstraction, dans ses raisonnements, et pourtant qui, pas une seule seconde, ne croit au pouvoir de la philosophie pour elle-même. Quand on dit qu'on a quelqu'un qui est plus royaliste que le roi, mais qui n'a jamais été et ne sera jamais royaliste. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Saint-Anselme en termes plus respectueux du texte lui-même, parce que le but de Saint-Thomas dans la clarification des contenus de la foi n'a jamais été de clarifier pour le croyant, mais de clarifier pour le païen. Autrement dit, le discours philosophique, de son point de vue, n'est certainement pas là pour aider celui qui a déjà accédé à la lumière naturelle. On vous présente d'ailleurs la lumière divine, on vous la présente d'ailleurs comme étant une science. C'est-à-dire celui qui sait que Dieu s'est incarné, ben voilà, il sait autant qu'il peut savoir, c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Mais celui qui ne croit pas encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut être indifférent, ne pas s'en occuper, bon, c'est au contraire à l'engagement en termes de témoignage. On peut le faire croire de force, si on peut dire, bon, ça c'est fait hein, dans l'histoire, dans toutes les religions, je crois. C'est pas ce qu'il y a de plus moral, évidemment. On peut aussi le faire croire d'une manière progressive, hein, c'est Pascal qui développe ça, c'est-à-dire soit par des arguments un petit peu commerciaux, genre le pari, soit par des aptitudes du corps qui vont faire que peu à peu, à force d'aller à l'église, vous allez vous habituer, puis un jour, la lumière divine viendra sur vous malgré vous, hein, et vous serez mis en situation, vous serez rendu disponible à une grâce. Soit on peut passer par ce qui est commun à tous, et c'est peut-être cela qui est finalement le plus probant, c'est-à-dire considérer que, en dépit de toutes les différences d'histoire personnelle, de sensibilité, d'objectif, etc., nous avons tous une raison. C'est ce qui fait le propre de l'homme, et que de ce point de vue-là, un discours rationnel sera ce par quoi il faut passer pour pouvoir être dépassé. Et voilà la tentative de saint Thomas, faire en sorte que le discours rationnel soit une médiation vers quelque chose qui échappe à la raison. Là où évidemment c'est extrêmement étourdissant du point de vue de l'histoire et de la philosophie, c'est que c'est comme si vous aviez en face de vous des gens sensibles à la peinture, par exemple, et que vous avez parvenu à l'idée que pour les convaincre de cette idée ou d'une autre, il faut que vous fassiez des tableaux, parce que c'est vraiment ça qui va être parlant pour eux. Que vous n'aimez pas la peinture, mais que pour faire des tableaux qui vont leur plaire, vous allez avoir un style aussi génial que Picasso ou qu'un autre grand maître de la peinture. vous ne croyez pas, vous n'aimez pas, vous ne voulez pas en faire, et puisque c'est le seul moyen, vous allez non seulement le faire, mais le faire de manière géniale. Alors c'est pour ça qu'on peut lire Saint Thomas en disant non, c'est un philosophe à part entière, peut-être que même s'il avait pu, il n'aurait pas été chrétien, etc. Alors, on peut avoir cette lecture-là, parce qu'elle est très tentante de l'extérieur. L'architecture philosophique et rationnelle est tellement parfaite, du point de vue philosophique en tout cas, qu'on se dit, mais il aurait dû se lâcher un peu plus, et puis il n'aurait peut-être pas été aussi prisonnier des représentations de son temps. Mais non, il ne s'agissait pas de se libérer des représentations de son temps, il s'agissait d'utiliser le langage, entre guillemets, de l'adversaire, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais en tout cas, ça peut trouver, et ce faisant, de devenir aussi génial que n'importe quel philosophe qui ne partirait pas de cet objectif de conversion. Donc, vous voyez, il y a dans ce projet et de fait sa réalisation, quelque chose d'assez intimidant, parce que ça veut dire que quelqu'un qui assume que la philosophie est la servante de la théologie l'a assumé en étant un philosophe génial. Si ça avait été un nul, ça aurait été plus simple pour nous. On aurait dit, ouais, il voulait ça, de toute façon, il n'y a rien de plus intéressant, on s'en fiche, ça compte pas. Et quand c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui vous dit, eh bien, vous êtes un peu plus embêté. Et quand il s'agit, pour revenir à notre problème des preuves de l'existence de Dieu, quand saint Thomas dit « Attention, ce ne sont pas des preuves, ce sont des voix », et que ces voix, V-O-I-E-S, hein, ces voix se présentent comme ce que les autres appelaient des preuves, ben c'est encore plus embêtant pour nous. Parce que ça veut dire que oui, elles ont du sens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre à la poubelle, et que les réfutations qu'on a proposées sont intéressantes, mais qu'en même temps, elles n'affirment pas la qualité de ces preuves. Mais d'emblée, elles sont affectées d'un défaut, à savoir, elles se limitent à ce que la raison humaine peut voir. Et en raison de cela, elles peuvent, dans le meilleur des cas, dit saint Thomas, nous ouvrir à une grâce, à une révélation, à un message biblique, les voies sont possibles, mais elles ne remplissent pas une mission plus noble et plus importante que le pari de Pascal. Le pari de Pascal, vous savez, c'est cette idée que, bon, on n'est pas sûr qu'il existe, mais au cas où il existerait, il faudrait mieux faire comme si. Parce que, après, on va avoir la fin quand on va arriver là-haut. Alors, c'est mieux écrit que ça, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très commercial. C'est pour appâter le chaland, c'est tout. Hein, pour, chez nous, on rase gratis, ou bien 50% des choses, on surfait les produits, cartilité, moins 10%, bon voilà. C'est un peu ça. Sauf que Pascal n'a jamais été dupe de son propre raisonnement. Il ne s'agit pas de dire qu'une foi est construite là-dessus. Il s'agit de dire que si certains peuvent être amenés à la foi par des raisonnements comme cela, sachant que la foi, ce n'est pas ça, mais ils s'ouvriront à quelque chose qui est différent de cela, et bien tant mieux. Tous les chemins mènent à Rome, et celui de la séduction commerciale, on est peut-être un, chacun sa voie. Et bien, on a ça, même si c'est apparemment moins séduisant quand on ouvre la somme théologique, je veux dire, déjà, il faut l'ouvrir, il faut la porter. Et puis, même à supposer qu'on l'a dématérialisé, puisqu'elle est en libre accès, elle est gratuite sur Internet, allez-y surtout, eh bien, il nous faudra déjà consacrer un bon trimestre entier à la seule lecture de cet ouvrage. Donc, évidemment, ça reste de la philosophie, donc ça ne s'adresse pas à l'homme qui ne saurait pas lire, qui n'a pas envie d'entendre ce discours, etc. Bien sûr, il faut s'y rendre un peu disponible. Mais ça s'adresse à tous les gens éclairés par la raison, qui penseraient que la raison est censée les éloigner de la religion, et c'est peut-être un réflexe un peu post-cartésien. Pour saint Thomas, ce n'est qu'une médiation. Vous direz par vous-même, j'ai mis le texte 8 d'Étienne Gilson, justement, qui définit la philosophie chrétienne de cette manière-là. C'est-à-dire, la philosophie chrétienne, en fait, bah, ça n'existe pas, au sens propre. C'est un discours en vue de la révélation, et donc, soit on parle de philosophie en attendant autre chose, soit on supprime cette expression de philosophie chrétienne, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas d'y voir une philosophie sur la chrétienté qui resterait indemne de la chrétienté elle-même. Alors la difficulté, je reviens à celle que j'ai annoncée, c'est que quand vous dites cela, eh bien, vous vous mettez dans la dépendance de ce que j'appelais la révélation, la grâce, etc. Si moi je lis les preuves de l'existence de Dieu, et que, entre guillemets, ça ne fait rien, sorte d'insensibilité à la révélation divine. Ou bien, si je les lis, et que malgré toutes les précautions que prend saint Thomas, malgré d'ailleurs la critique qu'il fait lui-même de saint Anselme, hein, vous voyez, c'est pas une affaire récente, la critique des preuves de l'existence de Dieu, je je trouve à critiquer énormément les cinq voies qu'il propose. C'est-à-dire dire, bah, déjà, je trouve ça bizarre que la raison puisse m'amener peu à peu vers la révélation, et de surcroît, je ne suis pas d'accord avec les voies proposées à la manière d'un Kant, puisque finalement, ce sont des preuves qui rappellent pas mal les preuves d'Aristote. Eh bien, ça veut dire qu'on va finir dans une forme, peut-être pas d'obscurantisme, mais en tout cas de servilité à l'égard du texte biblique, et que l'on va arrêter la démarche rationnelle. Et il y a contradiction avec la Bible elle-même. Hein. Si Dieu a fait l'homme à son image, c'est qu'il est censé penser. Encore une fois, l'argument de Locke. Dieu nous a donné une raison, c'est pour qu'on s'en serve. Donc, on a là une difficulté. Parce que quand vous admettez cette soumission, vous avez relativement peu de chances d'en sortir et vous risquez de ralentir le développement de la raison. Encore une fois, ce qui est amusant, c'est que moi je dis ça de l'extérieur au XXIe siècle, c'est ce que, les dominicains disaient aux franciscains du XIIe au XIIIe siècle, c'est-à-dire vous risquez de ne pas assez exprimer votre raison. Et vous voyez que, me mettant dans la peau de quelqu'un qui ne serait pas convaincu par ses raisons, mon argument contre un dominicain, c'est de dire vous risquez de ne pas assez exprimer votre raison. Donc vous vous rendez compte que dans ce débat, il y a un terme qu'on n'a peut-être pas assez défini qui est relatif à la notion de preuve, c'est la notion de raison. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme qui fait qu'on risquerait de la perdre ou au contraire qu'on l'exprimerait vraiment par la philosophie? Eh bien, c'est enfin, un de tout le projet de Hegel. Après ce moment de la critique des preuves de l'existence de Dieu, dans ce beau texte, hein, l'école Simon s'intitule Les leçons sur les preuves de l'existence de Dieu. Il dit que oui, on a raison de s'inquiéter de ces preuves, de considérer qu'elles avaient des raisons d'être. Oui, on a raison de les critiquer, parce que toutes les critiques qu'on a faites, oui, on a encore plus raison, comme le fait Hegel, de les critiquer encore davantage, c'est-à-dire elles étaient déjà agonisantes, là, on les assassine, on les achève. Mais que dans cette critique, c'est fait quelque chose, c'est produit quelque chose qui finalement révèle la substantifique morale de ces preuves. Alors, qu'est-ce qui se joue exactement, nous dit Hegel, dans ces preuves et dans leur réfutation? Eh bien, ce qui se joue, on l'a déjà rencontré, c'est l'opposition de la foi et du savoir, ou de la foi et de la raison. La caricature étant la suivante, et Hegel va nous en dissuader, c'est de dire que la raison cherche à tout justifier et que la foi, elle parle de la révélation et s'en contente. Autrement dit que la foi, ce serait l'immédiateté. Je crois, je vois, je sens, je prie. Voilà. Donc on serait plutôt du côté de la sensibilité, hein, même si ce n'est pas les cinq sens, alors que la raison, elle, serait du côté de la médiation, c'est-à-dire je pose une chose, je définis, j'en rajoute une autre, j'en définis, j'en rajoute une autre, et peut-être à la fin, j'arrive à une conclusion. Donc cette opposition, finalement, se cristallise dans le vocabulaire hegelien entre l'immédiat et le média, l'immédiat de la foi, la médiation, le raisonnement. Et Hegel va commencer par appliquer le principe de charité à la lettre, puisqu'il va dire, mais c'est pas juste vis-à-vis de la foi, car la foi, c'est beaucoup plus riche que la seule immédiateté. On voudrait que la foi soit aussi immédiate que le tact quand on touche cette table. Non, il y a plus. Et comme il dit, dans la foi, il y a des représentations. La foi, c'est une intimité de la représentation objective. C'est-à-dire l'intimité au sens, ça nous touche tout de suite, mais il y a du contenu à l'intérieur. Et ce qui intéresse Hegel, c'est de fouiller son contenu pour s'apercevoir qu'il nous ramène à la raison, comme la raison par ailleurs peut nous ramener au contenu de la foi, autrement dit il y a convergence, mais ça suppose qu'entre temps on a changé le sens du mot raison. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, il dit dans la foi, il s'inspire essentiellement de la foi chrétienne, parce que c'est la sienne, et puis, enfin la sienne, il en est parti en tout cas, sa construction historique des religions, c'est celle qui est la plus riche. Il dit, dans la foi, il y a cette intimité, c'est-à-dire ce sentiment de proximité plus proche que n'importe quelle proximité. Et il cite tout un nombre de phrases qui déjà à l'époque pouvaient se dire. Je sens Jésus en moi, Marie est la mère de tout le monde, etc. Bref, on est en famille. Dieu n'est pas lourd. Il est Dieu, ou le Dieu en l'occurrence, est très proche. Et la foi, c'est celle du cœur. La foi, ce n'est pas celle de la loi abstraite et distante, dont Jésus nous a libérés sans y renoncer d'ailleurs, mais par lui donner un autre sens. Mais c'est celle qui parle au cœur de chacun, dans le langage de chacun, dans un souci de proximité que viendrait représenter l'incarnation. Enfin, ce serait la meilleure expression de cette proximité. Si le Père s'est incarné par son Fils, eh bien, c'est-à-dire qu'il s'est mis à notre portée. Alors, on n'est pas forcément en intimité avec une personne physique, évidemment, mais voilà, du point de vue du symbole, de la représentation, la foi, c'est cela. Or, nous dit Hegel, si la foi, c'est l'intimité de la croyance, si c'est la foi du cœur, si c'est ce qui me touche le plus profond de moi, si c'est même ce que j'ai du mal à exprimer tellement c'est en moi et que je n'arrive pas à le mettre à distance, si c'est la foi en un Dieu qui s'est incarné pour être encore plus proche, qui a voulu souffrir comme nous pour être encore plus proche, finalement, il fait le saut, c'est tellement proche de moi que c'est moi. Pourquoi vouloir continuer à raisonner en termes de face-à-face sujet-objet, comme ce dont on est parti, alors qu'on est en train de rapprocher tellement les termes que la distance se réduit, se réduit, se réduit, et il y a un moment où je ne suis plus avec Dieu, comme dans un face-à-face, analogiquement à la table que je regarde et que je distingue. Alors, présenté comme ça, j'ai conscience que ça peut paraître très prétentieux, Dieu c'est moi, c'est un peu rapide. En réalité, là encore, il y a toute une discipline logique qui s'organise autour de ça, et qui permet à Hegel de reprendre l'épreuve de l'existence de Dieu en disant que leur véritable version, qu'on aura le temps ici de développer, leur véritable version, ce n'est pas, à l'image des mathématiques, de tirer d'un concept un autre concept, rappelez-vous la critique de tout à l'heure, parce qu'il était déjà dedans, mais de voir le concept, entre guillemets, sans que j'y touche moi, générer un autre concept, et un concept qui soit à la fois parole, mais vraiment nouveau. Alors, c'est pas facile à comprendre, mais concrètement, disons simplement, mais pour Hegel, c'est très concret tout ça, ça revient à dire que d'un concept A, je peux tirer un concept B qui n'était pas dans A, qui est relié à A, mais qui est bien distinct de A. Formellement, ça revient à ça. C'est ainsi que Hegel, au tout début de la science de la logique, dit que de l'être, on peut trouver le néant, quand c'est contradictoire, donc parenté. Du néant, on peut trouver l'être, pourtant c'est contradictoire, parenté, et que sans qu'on le veuille, en passant de l'être au néant, du néant à l'être, on a vu un passage se faire, c'est-à-dire que malgré nous, c'est le devenir qui est apparu. Autrement dit, des concepts peuvent en générer d'autres malgré nous, parce que quand on écrit être, on dit bah, être, c'est ce qui est, c'est donc le contraire de ce qui n'est pas, trop tard, tu as parlé de ce qui n'est pas, c'est une relation, et dans ta relation, tu as signalé qu'il y avait un passage d'une relation à l'autre, donc en marquant être, sans que tu le veuilles, tu as déjà marqué devenir. Mais c'est pas toi qui l'as tiré, c'est le concept lui-même qui s'est exprimé ici. Alors, je vais un petit peu vite, mais essayez au moins analogiquement de le penser ainsi. S'il doit y avoir des preuves de l'existence de Dieu, et Hegel le fera, c'est en sortant des habitudes mathématiques de la pensée, ou de la présentation des preuves classiques de l'existence de Dieu, et en accédant à ce qu'il appelle la raison. Alors la raison, c'est pas la même que celle dont on parle depuis tout à l'heure. C'est celle qui se distingue de l'entendement, qui sert maintenant à qualifier les époques antérieures, et qui est une raison qui est une faculté qui accepte de ne pas tout maîtriser par une définition, qui accepte de voir, par exemple, une existence apparaître à partir d'une seule idée. Le passage de l'idée à l'existence ne serait pas une déduction logique, mais serait le développement normal du concept. Ben, ce ne serait pas nous dans notre discours qui en arriverons à dire bah oui, il doit exister, c'est que le concept de lui-même va se mettre à exister. Alors c'est bizarre. C'est tellement bizarre que c'est ça le problème. C'est que cette notion de raison et toute la métaphysique qui prend. Alors ça s'appelle plus métaphysique, ça s'appelle logique chez Hegel, hein, mais c'est quand même la suite logique de ça. prend trois beaux volumes extrêmement denses, riches, merveilleux et intellectuels, ne valent finalement que pour quelqu'un qui adhère au sens hegélien de la raison. Et finalement, à part les hegéliens, il n'y aura pas grand monde pour adhérer à cela, ça n'empêche pas de réfléchir avec Hegel au moins un temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette manière de dire, les preuves quand même, elles ont servi à quelque chose. Car on a compris qu'il y avait l'identité du sujet et de l'objet, je suis allé vite, je suis désolé, mais c'est les limites de la vulgarisation, que la philosophie ne devait pas être servante de la théologie, parce que finalement la théologie, elle est servante de la philosophie, parce que c'est pas l'entendement qui compte, c'est la raison. Et voilà le bilan des liens. Eh bien, c'est valable, mais dans une philosophie extrêmement isolée, ciblée, et en poussant un peu le trait, même si ce n'est pas exactement cela, entre qui ce n'est valable que dans une philosophie de plus. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un effort synthétique de Hegel qui est bien plus phénoménal que chez n'importe qui en philosophie, parce que d'abord il a plus long que l'histoire, et puis c'est un génie, et puis que voilà. Bon, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas beaucoup plus certain que sa conclusion, en voulant sauver les preuves et en donnant un autre sens, soit plus probante que les tentatives passées ou que les tentatives futures. Donc on en vient finalement à nos conclusions de la fin de la deuxième partie, même si maintenant on a vu que cette tentative de subordination de la foi à la raison, de la raison à la foi, n'aboutissait pas davantage. Et on a envie de dire, alors même quand on essaie des subordinations, même quand on admet une certaine limite de la raison, même dans cette limitation, on n'est pas sûr de nous. Donc on serait deux fois dans l'incertitude, non seulement quant à la valeur des preuves de l'existence de Dieu, mais quant au pouvoir qui resterait à la raison. Le scepticisme est donc une tentation très forte. On a même plus envie de les présenter comme une histoire qui se serait mal terminée, mais il faudrait même ne plus en parler du tout. La question c'est qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que vous m'avez écouté jusqu'au bout? Je veux dire, mais nous on ne savait pas la fin du film. On a cru qu'à faire de nous, il y a quand même une suite, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, non pas comme une suite où enfin on trouve que l'existence de Dieu n'est pas un problème pour la raison, ou non pas une fin qui dit bah, de toute façon on ne peut rien dire, donc rentrons chez nous et regardons la télévision. Il y a une fin intelligente à ce qui peut être considéré comme un échec, parce qu'en fait ce n'est pas un échec véritable, et peut-être que c'est là aussi une manière de qualifier l'effort métaphysique lui-même. Et j'ai voulu intituler ça la bonne ambiguïté, en reprenant une expression de Merleau-Ponty qui n'a aucun rapport avec l'effort de l'existence de Dieu, mais qui qualifie pour lui une manière d'arriver à la compréhension de l'être en général, et qui me semble bien traduire ce que je vais expliquer maintenant, cette dernière partie rassemblant l'ensemble de mes conclusions. Alors, première proposition, l'effort de l'existence de Dieu trouve la limite de la raison humaine. Vous allez me dire, ce n'est pas la peine de passer pour part à l'épreuve de l'existence de Dieu pour savoir que la raison humaine n'est pas Dieu. C'est sans doute pas la seule voie, c'est vrai. Cette voie a l'avantage d'être extrêmement honnête. Parce que chaque fois que vous parlez des limites de la raison humaine, si vous les posez trop vite, c'est que vous prenez trop de risques. Ou en tout cas, même parler des limites de la raison humaine suppose d'avoir assez de raisons pour pouvoir poser les limites. À supposer que terminé sceptique au terme de cette matinée, ce sera un scepticisme terminal, c'est-à-dire une position conclusive, c'est-à-dire que vous aurez pris le temps de voir si vous pouviez. Alors que si vous commencez par dire « je suis sceptique », comme l'homme vulgaire le fait dans les premiers jours, par exemple quand il évoque la philosophie en disant « voilà, ce sont des philosophes, on ne comprend rien, ils ne sont pas d'accord entre eux, à quoi ça sert », c'est surtout une bonne manière de ne pas avoir à en faire, à en lire, à écouter. Hein ? Donc c'est un masque extrêmement confortable pour l'hypocrisie et la paresse. Ça revient à dire, de toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux, donc pourquoi commencer à s'y mettre? C'est un peu comme de dire, un homme politique, un peu plus qu'il l'avait dit une fois, on ne veut pas des chercheurs, on veut des trouveurs, mais il faudrait déjà avoir pris conscience de ce que veut dire chercher. Et là, je ne parle pas que pour la métaphysique ou la philosophie, je parle pour la recherche fondamentale. D'abord, il n'est pas sûr qu'elle aboutisse à un résultat pratif, et puis vous avez plein de recherches fondamentales qui s'étalent sur des décennies, des siècles qui coûtent très cher et qui aboutiront à des résultats sous forme de modèles qui seront sans doute appelés un jour à les remplacer. Ce n'est pas une invitation au relativisme, mais de fait, la recherche est une culture de l'interrogation. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si c'est une culture de l'interrogation, qu'est-ce que nous, on a gagné en interrogeant l'épreuve de l'existence de Dieu et en s'apercevant qu'on allait pas jusqu'au terme. Eh bien, on a déjà montré que la raison était capable de s'interroger jusqu'au bout d'elle-même. Autrement dit, que la raison est assez réflexive au sens propre. Eh bien, elle peut prendre du recul sur elle-même pour évoquer ses propres limites. Toutes les facultés ne sont pas ainsi. Est-ce que votre main est capable de dire « Ah non, ça je touche pas, c'est trop chaud ». Vous avez un réflexe qui consiste à retirer la main si c'est trop chaud, mais la main ne peut jamais tenir un discours sur la température qui lui convient. Vous le faites. La main brûle à, je sais pas, 50 degrés peut-être. Je crois que c'est un peu plus, 70, mais on a une sensation de brûlure dès 50, la nature est très bien faite, on retire avant d'être cuit. Bon. Il n'en reste pas moins que c'est votre discours. Et la main, sauf exception dans l'anthologie de l'anthropie, mais la main n'est pas réflexive. La raison l'est. Et on pourrait imaginer un réflexe d'orgueil en disant « Ouais, j'ai une raison, je suis capable de me regarder moi-même », alors qu'on n'a jamais vu un pied se regarder lui-même, un œil se regarder lui-même, en tout cas, il faut une médiation. C'est un grand pouvoir, nous sommes égaux à Dieu. Ben non, parce que cette raison est assez réflexive pour se regarder elle-même, on s'aperçoit que ce pouvoir d'autocritique dévoile ses propres limites. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir du recul sur soi pour tout savoir de soi. Ou il ne suffit pas d'avoir du recul sur soi pour tout comprendre. Clin d'œil au canyon sans doute, la réflexivité de laquelle nous ne sommes pas sortis depuis Descartes, hein, qui continue à être celle de la phénoménologie hegelienne, de la phénoménologie husserlienne et qui s'exprime encore sous d'autres formes, est un concept ultra fécond pour plein de choses, mais aussi extrêmement présomptueux au sens où pouvoir avoir assez de recul en différence avec l'univers pour se regarder peut donner à penser qu'on peut tout comprendre. Ben, peut-être que non. C'est-à-dire qu'une réflexivité pourrait elle-même servir à comprendre nos propres limites. De sorte qu'on reviendra à quelque chose de bien connu, peut-être de trop connu, devant certains, c'est-à-dire de mal connu, dire la gueule, à savoir que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Sauf que pour dire ça, il faut déjà avoir fait tout le parcours de Socrate et avoir d'abord éprouvé tous les concepts, on en a des échos dans les dialogues de Platon. C'est-à-dire avoir été au bout de chaque problème, c'est-à-dire à un terme tel qu'on puisse dire, bah là on ne peut plus aller plus loin, parce que vraiment on est allé au bout. Par différence avec le vulgaire, qui peut reprendre cette phrase, puisqu'elle est très connue, c'est sans doute la plus connue avec le sens dont je suis, qui peut la ressortir en ayant le sentiment d'avoir fait le tour de la philosophie, il en aura dit quelque chose de vrai, puisqu'il aura une citation exacte, peut-être même qu'il la comprendra un petit peu, mais entre cette citation prononcée par le débutant en philosophie et cette citation prononcée par Socrate, plutôt sur le terme de son existence, il y a une sacrée différence de maturité. On n'y met pas la même chose. Les mots ont peut-être un sens commun, mais il y a là la synthèse de toute une expérience de la pensée. Eh bien, ce serait un peu ce qui nous arrive avec l'épreuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire la raison illimitée ne vous en servait pas, retourner dans la nuit de l'obscurantisme, etc., mais de dire il faut passer par cette médiation aussi apparemment décevante soit-elle, pour poser des limites dignes de ce nom à la raison humaine. Je reviens à une question que j'ai laissée en suspens, je suis le 3 de 2. Pourquoi est-ce que Dieu, le problème des preuves de l'existence de Dieu, serait à ce point utile dans cette question des limites? Après tout, la physique nous mène aussi à l'idée que la raison humaine n'est pas tout, la logique à sa manière. Et pourquoi est-ce que en particulier, on aurait dans ce problème-là quelque chose de plus révélateur du pouvoir réel, bien que limité, de la raison humaine? Eh bien, parce que pour ce qui est de Dieu, par différence avec les objets, c'est qu'on en traite aussi, pas toujours, mais aussi, comme un être supérieur et infini. Et ça pose un problème supplémentaire à la raison. Par exemple, si j'essaie de comprendre la matière, je vais dire, voilà, il y a l'atome, sous l'atome, il y a les électrons, etc. Dans l'électron, il y aurait d'autres sous-particules que sont les quarks. Dans les quarks, il y aura encore autre chose. On arrive au boson de X, et puis le boson de X, c'est vrai. Bon, voilà, on recule. Et à chaque fois, vous avez des choses qui sont circonscrites. Tellement circonscrites qu'elles sont miniatures. On a l'impression que, voilà, on pouvait déjà prendre l'atome, tellement il est petit, mais alors on peut prendre le fondement de l'atome, tout va bien. Le problème, c'est qu'avec un être supérieur, quelle que soit la représentation religieuse, avec différentes expressions politiques possibles, il arrive tout de même assez souvent de parler de Dieu comme d'un être infini. Or, quoi de plus contradictoire avec la notion d'objet qu'on peut définir qu'un être qu'on présente en D comme infini? On a déjà ce problème avec la notion d'infini, hein. C'est pas le seul cas de Dieu. Bien, on va essayer de définir l'infini. Ah, trop tard. Oui, définir, c'est donner une limite, et l'infini, c'est une nouvelle limite, donc on ne peut pas. Alors, c'est un problème pour les maths, c'est un problème pour la philosophie, mais de toute façon, des êtres infinis, il n'y en a pas tant que ça, quand la métaphysique s'interroge. Vous avez éventuellement le monde, éventuellement, il faudrait arriver à le trouver. Que certains ont dit non, ça n'a aucun sens, il faut que le monde soit fini, parce que sinon on ne peut même pas le penser, vous voyez que c'est un gros problème. Vous avez quoi d'autre? À Dieu. Et bon, l'infinité du monde, dans la vie pratique, on peut peut-être s'en passer, parce que les gens peuvent agir localement, c'est pas si mal. Mais le problème de Dieu est de ce point de vue-là plus immédiat, au sens où, comme je le prenais avec l'exemple de l'enfant tout à l'heure, l'interrogation sur nos origines est une interrogation spontanée. L'interrogation sur les limites de l'univers est peut-être un petit peu moins inégale. Elle peut se poser à l'occasion d'une observation. Enfin, si on a vécu pendant des millénaires en pensant que le monde s'arrêtait à la Terre, voire à l'Europe, c'était plus immédiat, en tout cas, même si ce n'était pas forcément plus justifié. Alors, il faudrait qu'on prenne à cet égard le texte de Henri Lubac, texte numéro 10, qui justement il résume ce problème de l'objet. Encore une fois, ce n'est pas contradictoire avec ce que je dis sur les limites de la raison. C'est plutôt une explication, parmi d'autres, de ces limites. Pourquoi est-ce que c'est une question cruciale et pourquoi il faut passer par elle pour apprécier les limites de la raison? Parce que l'interroger en termes d'objet, c'est déjà avoir posé le problème en termes quasiment sans solution. En d'autres termes, nous pouvons renoncer à l'absolu pour lequel elle est faite. Mais ne sachant encore où le situer par un mouvement naturel, elle le cherche d'abord dans l'objet. Elle, c'est la connaissance. Mais chercher l'absolu dans l'objet, n'est-ce pas se condamner à ne jamais l'atteindre? Le monde objectif est un océan sans rivage où l'esprit a vite fait de se perdre. S'y embarquer, dans l'espoir de jeter l'ancre un jour aux terres situées au-delà des choses physiques, n'est-ce pas quitter le monde réel pour un royaume indéfini d'abstraction? La vraie métaphysique, elle, est par excellence la science du réel et du concret. Entendez par là, la métaphysique, en reconnaissant qu'elle aborde des objets qu'elle ne peut pas définir parce qu'ils sont infinis, est le lieu par excellence où l'esprit fait l'épreuve de ses propres limites. Et c'est déjà un savoir d'avoir dit ça. Et ce n'est pas un savoir qui peut être premier. Pour dire quelqu'un qui me parle des limites de la raison, ah bon, je note la raison limitée, d'accord, c'est fait. Il faut passer par ces négations. Alors, elles peuvent être raccourcies, bien que réelles, comme ce matin. Bon, je ne ferai pas le tour de ces limites en 3 heures, désolé, c'est fermé. En revanche, pour atteindre un je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, eh bien, il faut passer par toute la vie d'un Socrate. Et ce que dit Lubac ne fait que renforcer cette difficulté, à savoir, la métaphysique est aussi aporétique, c'est-à-dire elle n'a pas de solution sur la question des preuves de l'existence de Dieu, sur sa nature, elle est un effort nécessaire. C'est un peu bizarre de présenter un projet d'anglais raté comme une nécessité. C'est ce que je dis dans la troisième proposition. Les preuves de l'existence de Dieu expriment le besoin rationnel de métaphysique. En concluant sur ce paradoxe, si l'homme ne s'interroge plus du point de vue métaphysique, avec une question comme celle de l'existence de Dieu, il n'y en a pas tant que ça, hein, des grandes questions métaphysiques. Quand il ramène à 3, on peut peut-être élargir un petit peu, mais vous n'en avez pas 40. Hein. Donc celle-ci est un bon symptôme. Donc, quand l'homme dit, bon allez, j'arrête, c'est trop compliqué pour moi, je préfère vaquer à des occupations plus immanentes. Ça peut durer un temps. Ça peut même durer longtemps. Est-ce que ça dure tout le temps? C'est ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une certaine forme de malaise qui peut s'exprimer dans un vocabulaire qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'existence de Dieu, du style, je m'ennuie? Cette vie manque de relief. Pourquoi est-ce que, en regardant la télévision, TF1, par exemple, pourquoi est-ce qu'en regardant TF1 tous les soirs, je n'y trouve pas mon compte? Pourquoi est-ce qu'en gagnant de plus en plus d'argent, je n'y trouve pas mon compte? Et sans doute que ce n'est pas la phrase que prononcerait quelqu'un qui vient d'acheter sa télévision avec sa nouvelle fortune. Donc, il faut laisser passer un peu de temps. Mais pourquoi courir après des mirages pourquoi est-ce que quand vous avez des milliards et des milliards, fictivement en tout cas, pourquoi est-ce que les rois du pétrole, par exemple, cherchent toujours à construire la tour la plus haute que le roi du pétrole qui passait juste là avant? Il y a un moment où on va peut-être s'arrêter quand même. Hein, on sera tellement haut qu'on n'aura plus assez d'ascenseurs pour grimper tout là-haut. Bref, cela ou l'orgueil de la tour de Babel, c'est peut-être l'orgueil justement, non pas tellement de vouloir se passer de Dieu, en fait, du point de vue philosophique, ce serait un peu trop rapide, mais de vouloir au moins se passer du questionnement. Pourtant, un questionnement, ça n'engage à rien. Hein. On va prendre une formule commerciale, c'est gratuit, ça ne vous oblige pas à telle ou telle réponse, et si vous avez appris des choses, vous en serez le premier bénéficiaire. C'est tout autant temps. Mais évidemment, le paradoxe, c'est que quand l'homme exprime cela en lui, soit de manière professionnelle comme le philosophe, soit de manière plus distante ou bien réelle comme vous ce matin, eh bien, il ne trouve pas la réponse. Et on ne peut pas être content si on dit « mais on voulait, mais on n'a pas trouvé ». Une question appelle une réponse. Alors, si au bout de 2500 ans de questionnement, pour la métaphysique en général, on n'a pas les réponses, à quoi bon continuer? Pourquoi êtes-vous encore là, alors que je vous dis depuis tout à l'heure que la raison est limitée? Vous auriez dû être déjà partir. Pourquoi est-ce que certains, comme mon collègue et moi, en faisons notre métier? Pourquoi est-ce une discipline obligatoire, la philosophie, et cette année, pour en obtenir la métaphysique, dans certains concours? Pourquoi est-ce qu'on inclut la métaphysique dans les domaines de la culture? Pourquoi est-ce que Hegel dit une civilisation sans métaphysique est comme une culture sans âme? Pourquoi cette récurrence? Pourquoi ce maintien de la question alors que la question avoue son propre échec? Ou pour poser la même question autrement, pourquoi les questions métaphysiques sont-elles toujours présentes? Ça reviendrait vers ça. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de les abandonner une fois pour toutes? Eh bien, comme j'évoquais déjà tout à l'heure, parce que l'interrogation elle-même est une culture. Parce que l'interrogation elle-même est un savoir. Alors, en quel sens faut-il l'entendre? Il ne suffit pas de poser la question comme ça, dans un débat télé, et laisser en suspens la réponse dans une sorte de silence élogieux condescendant, c'est pas ça. C'est de s'apercevoir que, entre le premier moment de cette matinée et maintenant, même si vous n'êtes pas davantage sûr que Dieu existe ou non et quelle est sa nature, vous savez en quels termes la question se pose. Dans le vocabulaire horrible de la dissertation qu'on enseigne au Gagnon, on dirait vous avez problématisé votre questionnement. Alors, c'est-à-dire, vous êtes passé d'une question en général, est-ce que Dieu existe, à une maturation des termes, et c'est pas juste pour rajouter des termes compliqués dans une question compliquée, c'est que maintenant, vos questions, c'est si la raison est limitée, quelles sont ses limites, comment connaître ses limites, jusqu'où peut-on parler de Dieu, est-ce que c'est un sens d'en parler, au sens où parler, c'est déjà prendre une notion sur le langage. Question qui n'était pas d'emblée posée telle qu'elle. Il y a, c'est chez André Gide dans Talmud de mémoire, un personnage qui pose une question à un ami philosophe, genre comment être heureux, je m'en sortir avec ma copine, machin, quel est le secret du bonheur. Et l'autre commence à partir, alors le bonheur, tu as déjà considéré, machin. Et puis finalement, alors il arrive à la réponse très aristotélicienne, c'est l'activité de l'âme conforme à sa vertu, etc. Et son commentaire, c'est de dire. Quand on pose une question à un philosophe, la manière de savoir qui a répondu, c'est qu'on comprend plus, même plus sa propre question initiale. Bon. De l'extérieur, c'est vrai. C'est-à-dire, le philosophe transformerait votre question en des termes que vous ne maîtrisez plus vous-même. Vous arrivez à votre question, déjà vous aviez le sentiment de sortir du lot, parce que vous êtes plus en recul par rapport au réel, puis finalement, votre question, vous ne la maîtrisez plus, elle vous échappe. Entre-temps, elle a été tellement transformée que ça ne ressemble plus à rien. Bah, ça ne ressemble plus à rien, peut-être, parce que vous n'avez pas suivi le cheminement, mais entre le diamant brut et le diamant porté sur une bague, on ne peut pas vraiment dire qu'on a perdu, on a même gagné. Pourtant, qu'est-ce que vous avez inventé de plus? Qu'est-ce que vous avez de plus que vous n'aviez pas initialement? Vous n'avez rien de plus, vous avez même moins de matière. Et pourtant, on a gagné quelque chose? Eh bien, par analogie, notre interrogation serait de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a un art de l'interrogation. Il y a un progrès du questionnement lui-même. Alors, je sais bien que ce n'est pas du tout dans l'époque de dire ça. On veut des trouveurs. On veut des trouveurs qui font des choses utiles immédiates. Et là, je vous parle de chercheurs qui, en plus, ne font pas des choses utiles. En tout cas, très lointainement. C'est deux fois pénalisé par notre société. Et tant pis pour la société, elle ne voit pas ce que nous voyons. D'ailleurs, vous voyez que vous, maintenant, vous comprenez la démarche de la société et la vôtre, alors que cette société dont je parle abstraitement ne voit pas votre propre démarche. Donc vous êtes déjà dans une situation où vous avez un avantage sur cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un art de l'interrogation et que la réfutation, de ce point de vue-là, n'est plus le moment de l'échec, mais le moment où l'interrogation est relancée pour être réexprimée, reformulée, améliorée. Alors vous allez me dire, oui, mais alors partant de là, chaque fois qu'on ne répondra pas, il faudra être content. Ben non, parce qu'il faudrait vraiment être sûr des raisons pour lesquelles on n'a pas compris, on n'a pas résolu le problème, et il faut être sûr d'avoir été jusqu'au bout. Et 2500 ans de réflexion sur les preuves de l'existence de Dieu, c'est quand même pas l'expression de la paresse. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Une recherche vite abandonnée est une fausse recherche. Une recherche trop inquiète, rapidement de sa solution est une fausse recherche. Et une recherche lente et patiente et rigoureuse qui a trouvé son résultat est une vraie recherche. Mais une recherche lente, patiente et rigoureuse qui aboutit à des thèses négatives certaines, du style « la raison ne peut pas dire ceci, la raison ne peut pas dire cela », c'est aussi également une recherche. Et ce faisant, si vous êtes devenu, chemin faisant, en tout cas ce matin, davantage chercheur, même si vous n'avez pas finalement été des trouveurs, eh bien, vous avez pris du recul sur cette société, par exemple. Je dis cette société, la vôtre est sans doute pas pire que les autres, comme ça, elle est comme elle est. Il y avait les sophistes du temps de Platon, il y avait d'autres mécréants à d'autres époques, nous avons les nôtres, ils s'appellent de manière caricaturale libéraux radicaux, mais on aurait pu les appeler autrement. Et puis, même dans la pire des erreurs, il y a toujours quelque chose de vrai. Donc soyons charitables jusqu'au bout. Eh bien, en prenant du recul sur cette société, et en passant pour cela par une question sur l'absolu, qui n'est pas non plus un terme très à la mode dans une société commerciale, qui encore une fois veut renouveler les désirs et non pas les arrêter. Eh bien, vous allez libérer, que ce soit en crise. Autrement dit, en prenant ce recul-là, vous n'avez pas simplement réfléchi à Dieu, aux limites de votre raison, etc., mais vous avez cultivé, éveillé, réveillé, augmenté en vous un certain sens, non pas seulement de la raison, mais même de la liberté. Et c'est là-dessus que Jaspers, dans sa petite introduction à la philosophie, qui en fait est plus qu'une introduction, conclut le débat sur les preuves de l'existence de Dieu. Je prends le texte numéro 11 et on terminera la matinée sur celui-ci. On va juste dire le début. Non seulement de telles preuves ne prouvent pas l'existence de Dieu, mais encore elles nous poussent à faire de lui une réalité du monde, qui serait, pour ainsi dire, fixé à des limites au-delà desquelles commencerait un deuxième monde. Elles ne font alors qu'obscurcir l'idée de Dieu. Vous voyez, dans la réputation, c'est quand même plus gentil que ce qu'en tire Jaspers. Elles font cependant une impression d'autant plus forte qu'elles nous conduisent plus fermement à travers les apparences concrètes jusqu'au néant et à l'inachèvement. Alors, grâce à elles, nous prenons notre élan et le monde ne nous suffit plus. Il n'est pas le seul être. Par monde, vous entendez la quotidienneté. On retrouve sans cesse cette vérité. Dieu n'est pas un objet de connaissance. Il ne peut pas être dévoilé de façon apodictique, c'est-à-dire certaine. Dieu n'est pas non plus un objet de l'expérience sensible. Il est invisible. On ne peut pas le regarder, on ne peut que croire en lui. Mais d'où vient cette foi ? Elle ne vient pas originellement des limites extrêmes de l'expérience dans le monde, mais de la liberté de l'homme. L'homme qui prend vraiment conscience de sa liberté acquiert en même temps la certitude de Dieu. La liberté et Dieu sont inséparables. Pourquoi ? Je suis certain d'une chose. En tant qu'être libre, je n'existe pas par moi-même, mais je suis donné à moi-même en présent. En effet, je peux me manquer à moi-même et je ne peux pas conquérir ma liberté par force. Lorsque je suis vraiment moi-même, je suis certain de ne pas l'être par moi-même. La liberté suprême, libre de toute emprise de la part du monde, se sait en même temps liée de la façon la plus profonde à la transcendance. Alors j'explique un petit peu parce que ce texte, sous couleur d'une certaine simplicité dans son vocabulaire, est finalement assez riche comme toute cette œuvre qui s'appelle « Introduction ». Qui, à mon sens, est un vrai essai très personnel. Qu'est-ce que diriez-vous à Scott en disant quand je me rends compte des incertitudes de la raison, je ne peux que croire. Alors, si c'était pour nous remettre dans une position de croyant où on abandonne toutes les médiations par lesquelles on est passé, ce n'était pas la peine. C'est-à-dire que là, vraiment, le coup, on n'aurait pas été chercheur. Ce n'est pas ce que veut dire Jaspers. Quand Jaspers dit que je ne peux pas faire autrement que croire en Dieu quand je m'éveille à ce questionnement, je prends ici un Dieu très mal défini, en tout cas suffisamment large d'abord pour embrasser tous les dieux de tous les philosophes, c'est d'ailleurs ce que reprochent les religions, votre Dieu est trop abstrait, trop lointain, trop froid, toutes sortes de choses. Mais il veut surtout dire que par l'épreuve de cet échec de nos preuves, eh bien, nous sentons en nous une certaine relation, ou un certain désir, ou un certain besoin, ou une certaine dimension de la transcendance. Je le dis en termes qui ne sont pas du tout équivalents, parce que ce n'est pas du tout fini comme réflexion, parce que pourquoi vous interroger sur l'épreuve de Dieu? Pourquoi continuer à entretenir cette méditation? Pourquoi, en tant que chrétien, si vous l'êtes, ne pas être totalement satisfait des termes de la foi, parce que la raison continue à dire « mais pourquoi est-ce que tu crois ?» Et c'est bien naturel, et c'est souhaitable, et notre raison est ainsi faite, donc si Dieu n'avait pas voulu, on n'a pas posé rien, bref. Pourquoi continuer à méditer là-dessus, si cette méditation ne vit finalement qu'à dire « bon, bah, de toute façon, on y croit, voilà, c'est fait. » Ce que veut dire Jaspers, c'est que même celui qui ne croit pas, et il a tout à fait le droit d'être dans cette position, et on vient de voir que la réfutation de preuve veut y conduire, eh bien, il aura reconnu que cette interrogation le concerne. Car si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il aura pris ce problème hyper extérieurement, et que pour lui, le problème formel des preuves de l'existence de Dieu est le même type de problème qu'on peut avoir en mathématiques, qu'on peut avoir pour n'importe quel problème logique, qui fait que, par exemple, on va dire tout ce qui est rare et cher, un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Exercice classique pour réfléchir à ce que c'est qu'un problème formel. Il dira, bon, on a parlé du cheval bon marché, on va parler de Dieu, après on parlera de la voiture. Non, c'est pas la même chose. La matière n'est pas indifférente à la forme ici. On ne raisonne pas sur les thèses de l'existence de Dieu comme on raisonne sur n'importe quelle thèse. Car si vous le faites ainsi, dans l'indifférence à la spécificité de ce problème, vous ne le comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas pourquoi il est particulièrement crucial, pourquoi il est particulièrement récurrent dans l'histoire de la philosophie, et pourquoi Kant, qui lui-même dit on ne peut pas répondre, en fait un des trois problèmes majeurs de la métaphysique, en reprenant l'ensemble de l'histoire de la métaphysique. On en arrive donc à cette conclusion que le débat, même raté, même dans l'échec qu'il confesse lui-même sur les preuves de l'existence de Dieu, nous révèle à une aspiration que l'on peut qualifier avec le thème de ces matières philosophiques d'aspiration à l'absolu, ou qu'on peut qualifier d'aspiration métaphysique, ou qu'on peut qualifier d'aspiration à un au-delà, on peut lui donner plein de noms, et les cultures depuis la nuit des temps n'ont cessé de nommer ce besoin, cette aspiration, ce désir, etc. On en a vu une expression ce jour avec Emmanuel Levinas. Mais non seulement cette recherche nous éveille à notre propre nature, mais cette recherche en particulier sur les preuves de l'existence de Dieu nous éveille à notre propre relation à quelque chose de transcendant, que cette transcendance existe effectivement comme un Dieu, comme le Dieu, ou comme autre chose, puisqu'on n'a pas encore déterminé sa nature, mais dont l'humanité ne saurait totalement se passer. Voilà, je vous remercie.